l'heure philo. Philo jusqu'à 21h, Karen Dehé à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Adèle Caglar à la console.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Où sont les femmes philosophes? À la fin des années 20, un philosophe méconnu de tradition orale lance haut et fort la question. Jean-Baptiste Botule est bien isolé, seul à oser formuler aussi abruptement cette interrogation. Où sont les femmes aux idées pleines de charme? Où sont les femmes? Il insiste. Des poétesses, des romancières, nous en connaissons. Mais des femmes philosophes. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, trois grands noms reviennent dans les manuels. Simone Veil, Simone de Beauvoir et Hannah Arendt. Trois noms concentrés sur un seul siècle. Ce n'est pas beaucoup.
Et non, ce n'est pas beaucoup. Où sont les femmes? Effectivement, les femmes philosophes. Annabelle Bonnet, ce soir, notre invitée. Elle est sociologue et philosophe, chercheuse associée au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron. Bonsoir, Annabelle Bonnet.
Bonsoir.
Vous publiez un essai intitulé, j'adore le titre, La barbe ne fait pas le philosophe, paru au CNRS Éditions. Alors, vous retracez le combat des femmes pour l'accès à la pratique philosophique entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle. C'est un éclairage précieux, d'ailleurs, pour analyser ce qui se passe encore aujourd'hui. On ne se privera pas d'en parler parce que le combat n'est pas fini. On se dit à vous lire que des femmes comme Flora Tristan, Jenny Déricourt, ça ne dit pas forcément grand-chose à nos auditeurs, à Jeanne Baudry aussi, première agrégée de philo en 1905, quelle énergie il leur a fallu pour contrer les théories misogynes. À preuve de théories misogynes, je vais citer Victor Cousin, que vous citez vous-même dans votre livre. Donc, Victor Cousin, lui-même philosophe et homme politique. « Femme, être incomplet et condamné à une éternelle enfance, tu prétends t'élever à la philosophie, quel aveuglement est le tien ?» Ça fait froid dans le dos d'entendre ça, non?
Oui, certainement, sans aucun doute, oui. Ouais. C'était l'avis de Victor Cousin qui a été, il faut le rappeler, le premier grand homme philosophe à institutionnaliser la philosophie en France. Alors ça dit beaucoup sur les relations entre femmes et philosophie qui se sont développées dans notre institution.
Mais quel courage, disait quel poigne il a fallu à ces femmes, avoir le cuir tanné quoi, pour y aller.
Ah, tout à fait, oui. Et elles en ont beaucoup souffert, mais elles ont... essayer de surmonter les différents obstacles de la misogynie, une misogynie qui ne date pas du tout d'hier, une misogynie qui en philosophie est particulièrement plus affirmée qu'ailleurs, qui est jusqu'à aujourd'hui encore un des derniers bastions dans lequel les femmes ont beaucoup de mal de s'affirmer.
Et pourquoi ce bastion-là? Pire encore peut-être que les sciences, non?
Alors... moi j'aurais tendance à vous répondre que oui, pire encore, parce que ça se voit... aujourd'hui, si on ouvre un simple manuel de terminale de philosophie, par exemple, et ben malgré tous les débats qu'on a sur le genre, la parité, l'égalité, etc., et ben quand on prend les nouveaux manuels qui sont sortis il y a pas très longtemps, et ben on a que des photos d'hommes quasiment. Bon, il y a quelques changements, mais ça reste quand même massivement des hommes. Et donc c'est un élément qui montre, qui pointe du doigt cette grande difficulté. Ouais.
Annabelle Bonnet, moi je voudrais revenir justement au titre de votre livre. Encore une fois, j'aime beaucoup. Donc, être philosophe en France, c'est pour ça que ce titre existe en tant que tel. Sous la Troisième République, c'est d'abord et avant tout donc porter une barbe. Plus tard que lui, défier quiconque de mesurer la sagesse du penseur à la longueur de son poil. C'est Jules de Goncourt reprochant à Jenny Déricourt une demi-moustache qui ombrait ses lèvres. Et il n'a pas du tout, évidemment, souligné son talent. Pour les hommes... à quelques rares exceptions près, évidemment, on va en parler aussi, il y a une différence fondamentale de nature entre les sexes?
Alors, sous la Troisième République, oui, il y a une différence de nature qui s'affirme. Et puis, il y a tout un imaginaire autour du fait que la philosophie est une affaire d'homme. La philosophie, l'accès au symbolique, l'accès à la logique, à la rationalité, est une affaire d'homme et pas une affaire de femme, oui.
Mais Jacques Proudhon, là encore, pardon, il y a un peu pléthore de citations, mais les femmes ne sont pas douées de raison. quel philosophe serait contraire à l'harmonie sociale ? Ça, c'est important.
Tout à fait, c'est une dimension qui se joint à cette idée que les femmes n'ont pas de, ne possèdent pas naturellement un talent pour raisonner. Et c'est l'idée que si les femmes accèdent à la philosophie, à ce type de raisonnement qui mène à l'autodétermination, au libre arbitre, au fait d'avoir une pensée propre, ça peut créer un danger et une peur de déstabilisation sociale et une peur de déstabilisation de l'arrangement des sexes.
Il en va de la vie d'un pays, presque.
Bien sûr.
Alors, c'est quand même assez paradoxal, parce qu'il y a quand même eu la Révolution, il y a quand même eu le siècle des Lumières, on a prôné justement l'égalité entre l'homme et la femme, pour qu'ils deviennent à part égale des citoyens. Et là, ça veut dire que la femme n'est pas en mesure d'être une citoyenne ?
Eh bien, vous avez bien lu. On est encore dans ce registre, mais alors avec quand même une sacrée contradiction, parce que d'un côté, le siècle des Lumières a été le grand siècle qui a dit que chaque individu doit pouvoir accéder à son émancipation. Et puis, de l'autre côté, c'est une émancipation qu'on refuse à un certain nombre de catégories sociales. Mais
à la moitié de l'humanité.
Oui, en ce qui concerne les femmes, simplement la moitié de l'humanité, et qui, elles, vont justement aussi avoir un nouveau matériel pour dire, mais alors si l'émancipation est notre projet de société, si l'autodétermination fait partie de la nature humaine, alors nous aussi, on veut faire partie de cette humanité. Et donc là, on voit à la fois les contradictions qui naissent après la Révolution française, mais la réappropriation de la pensée des Lumières de la part de ces femmes, de la part aussi des mouvements féministes qui évidemment sont très importants au XIXe siècle.
Mais alors de la part aussi, il y a un côté, comment dire, la philosophie, peut-être par rapport à d'autres disciplines, la philosophie c'est quand même ce qui éclaire un esprit. Et donc si les femmes ont un esprit éclairé, elles sont dangereuses.
C'est un esprit dangereux. Tout à fait. C'est un esprit dangereux. C'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très fréquente dans les débats législatifs sur le droit ou non d'enseigner la philosophie aux femmes sous la Troisième République, où on va retrouver sans cesse cet argument qui intervient. Mais alors il y a même des aspects que pour nous aujourd'hui ça nous semble complètement ridicule. Mais on a des dizaines de pages par exemple qui traitent de la question de savoir si une femme qui lit Platon peut encore être une femme qui va bien savoir cuisiner.
Oui, l'histoire du mari qui rentre le soir chez lui, c'est
exactement.
Ça, et qui voit sa femme en train de lire
exactement.
Platon. Comment voulez-vous qu'elle s'occupe correctement de la maison?
Exactement, que c'est une anecdote que je mets en valeur, mais qui en fait pour eux n'est pas du tout une anecdote. C'est une vraie question. Pour eux, c'est une question même d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre savoir est-ce que les femmes, en ayant cet accès, vont pouvoir continuer d'administrer leur famille, leur foyer, et puis remplir l'estomac des hommes, en passant évidemment.
Mmh. Oui. Alors vous citez là encore, je voudrais citer. Je l'ai pris évidemment dans votre essai. C'est Jenny Déricourt qui parle, alors vous allez peut-être nous éclairer sur elle, nous dire qui elle est, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Messieurs, nous revendiquons, là ça montre bien le courage qu'il faut quand même. Messieurs, nous revendiquons notre place à vos côtés parce que l'identité d'espèce nous donne le droit avec un D majuscule, de l'occuper.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une phrase qui résume bien la pensée de Jenny Déricourt et aussi sa trajectoire, puisque alors pour aujourd'hui, elle est plus très connue, mais Jenny Déricourt a été une philosophe, une femme politique très influente, notamment dans les années 1840-1850. Ça a été une des révolutionnaires de 1848 qui demandait le droit de vote, par exemple, qui exigeait, avec un certain nombre d'autres femmes, évidemment, le droit de vote. Qui parlait déjà de la nécessité d'avoir devant tout travail égal, un salaire égal pour toutes les femmes. Et puis c'est aussi une philosophe qui a une histoire très, très douloureuse personnellement, qui a été mariée presque de force, qui a eu beaucoup de difficultés pour divorcer, enfin bon. Et puis qui était, en plus de sa pratique de femme politique penseuse, qui a été sage-femme. Et là, qui avait vraiment une préoccupation pour la question de l'éducation féminine, de l'émancipation, et qui, à l'époque, essayait et a réussi, de notre point de vue en tout cas, a réussi à contrer, à dialoguer, y compris avec des penseurs qui se disaient républicains, qui se disaient progressistes, et qui rejetaient en fait la citoyenneté aux femmes. Elle s'y est opposée, et elle a écrit des textes sur ça, et elle a écrit des textes pendant plus de 40 ans sur ce thème. Ça a été une grande féministe, bien sûr. sûr, de la pensée française et qui aujourd'hui, est encore très très méconnue.
Ben oui, on peut même dire qu'elle est passée aux oubliettes.
Ouais, mmh. Oui.
Arthur Schopenhauer, lu par Laura Adler.
Que peut-on attendre de la part des femmes si l'on réfléchit que, dans le monde entier, ce sexe n'a pu produire un seul esprit véritablement grand, ni une œuvre complètement originale, dans les beaux-arts, ni en quoi que ce soit, un seul ouvrage d'une valeur durable?
Voilà, ça ne s'invente pas. C'est évidemment une question de visibilité beaucoup plus que de compétence pour les femmes.
Sans aucun doute, c'est une question de visibilité, mais sous la Troisième République, c'est devenu aussi une question de compétence, puisque ça a été une époque, je rappelle que c'est en 1880, on instaure pour la première fois en France un enseignement secondaire public pour les filles, ce qui n'existait pas, hein, elles allaient jusqu'au primaire, tout simplement.
Et merci Jules Ferry, c'est à lui
parce que, alors là, on est sur la loi, il s'agit de la loi Camisset, plus particulièrement, Camisset, oui. Mais on est dans la période, oui, on est dans cette période.
On est dans cette période.
Alors, un enseignement qui reste quand même très restreint, qui n'a pas un objectif d'être massif ou du moins démocratique, mais qui pense à construire une élite, une nouvelle élite républicaine et qui accepte jusqu'à un certain point d'enseigner, voilà, d'ouvrir l'enseignement secondaire aux jeunes filles, aux jeunes femmes.
Mais on
exclut la philosophie, exactement. On interdit même son enseignement. On propose à la place quelque chose qui relève d'une espèce de morale, voilà, liée beaucoup à la famille, en fait, comment entretenir son foyer, comment avoir un petit peu de conversation avec son mari pour qu'il ne s'ennuie pas à table éventuellement. Et puis la philosophie est interdite et il faut se rappeler qu'à cette période, donc c'est une interdiction évidemment symbolique.
Mais c'est un rejet légal.
C'est un rejet qui est acté. Là, on n'est pas du tout dans un inconscient, dans un préjugé. On est dans quelque chose qui est complètement politique.
Et qui aura des répercussions pendant longtemps.
Et qui aura d'énormes répercussions, d'autant que la philosophie est nécessaire pour passer le baccalauréat et puis pour avoir accès à l'enseignement supérieur. Donc lorsque on refuse cet accès aux femmes, aux jeunes filles, on leur refuse un accès, donc oui, à la fois de connaissances basiques, mais en plus on leur refuse l'idée qu'elles peuvent être professionnellement des philosophes, ça bien sûr, et on leur refuse l'accès à toute forme de d'enseignement supérieur. Enfin, en tout cas, on met une barrière massive, puisque si elles n'ont pas étudié la philosophie, si elles ne peuvent pas avoir ces connaissances, elles n'arriveront pas à avoir le diplôme, et donc par la suite elles ne peuvent pas non plus continuer leurs études. Donc c'est pour ça que ça devient une histoire de compétences, mais pas, c'est pas une histoire de nature femme, c'est une histoire vraiment, c'est une compétence qui relève de l'éducation, d'une politique d'éducation.
Mais à partir de quel moment est-ce qu'elles ont pu recevoir un enseignement philosophique au lycée?
Alors légalement et de manière on peut dire nationale, la date clé c'est 1924. Donc là on a passé quand même plus de 40 ans à avoir une loi qui restreignait cet enseignement, en sachant que, c'est ce que je montre dans cet ouvrage, qu'il y a eu des transgressions qui ont eu lieu entre 1880 et 1924, des tentatives. Alors on peut discuter un petit peu de comment ça s'est produit, mais en tout cas, la loi Camisset tombe concrètement et pour toutes les femmes en 1924. Oui. Donc on est déjà.
Ça me fait bizarre quand vous citez Camisset comme ça, j'ai pas envie de lui sauter au cou et j'ai fait toutes mes études secondaires au lycée Camisset. Non, pas du tout.
Mais Camisset voulait qu'il y ait de la philosophie, quelques cours, et dans les débats, c'est dans les débats législatifs que la philosophie, que ça a vraiment coincé. Oui.
Annabelle Bonnet, vous êtes donc ce soir l'invitée de L'Heure Philo, La barbe ne fait pas le philosophe, les femmes et la philosophie en France entre 1880 et 1940. Mais évidemment, nous élargissons le débat. Moriarty sur France Inter.
The good becomes the bad. Long live evil.
Les femmes et la philosophie, les femmes philosophes, ce dont nous parlons ce soir est de l'histoire ancienne, se diront certains. Les choses ont bougé depuis, pour les femmes philosophes, en quelques décennies. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. À preuve, la philosophe Geneviève Fraisse.
Les philosophes ont un doute quant à la capacité de raison, c'est le mot raison qui va me venir, des femmes, ou à la place, enfin il n'y a pas d'égalité. On vous signale que vous n'êtes pas convié dans cet espace-là. C'est une violence et c'est en même temps ce qui m'a donné toute mon énergie, parce que on est effectivement dans l'époque qui a énormément compté pour moi d'après 68 et du début du féminisme. Donc je vais trouver dans le féminisme l'espace où je comprends, et non pas je décide, je comprends que ça pense. Le féminisme, ça pense. On disait, c'est hystérique, on l'a encore vu récemment. Hein. Elles sont hystériques, elles savent pas ce qu'elles disent, elles sont excessives, ça déborde, il faut qu'elles redeviennent raisonnables, etc., etc. On l'entend encore en 2020, hein, pas seulement en 1970. Et moi, j'entends bien tout de suite, dans les slogans, ou dans les articles, dans les textes, dans toutes ces revues, que ça pense. Donc c'est pour moi immédiatement un rétablissement, hein. C'est comme quand on fait de l'acrobatie, un rétablissement, et je vais partir à la recherche de cette pensée féministe.
Pensée féministe, donc, Annabelle Benet, l'émancipation intellectuelle des femmes, et notamment des femmes philosophes, s'est faite aussi dans un champ beaucoup plus politique, en fait. Le féminisme, c'est politique.
Oui, bien sûr, c'est politique. C'est d'ailleurs une des leçons... que Geneviève Fraisse nous livre à travers ces décennies de recherche sur ce thème. Mmh. Et j'en profite pour le rappeler que Geneviève Fraisse, pour ce qui concerne l'histoire des femmes et surtout pour ce qui concerne la légitimation des femmes en philosophie, a été une pionnière dans les années 70, qui a fait partie, voilà, il y en avait d'autres, hein, mais de cette génération qui a dit deux choses, qui a dit le féminisme c'est politique et le féminisme c'est philosophique aussi.
Alors, il se trouve que dans votre essai, vous parlez par exemple de Flora Tristan, philosophe, elle aussi militante. L'action politique pour elle est absolument indissociable du reste. Vous évoquez Marguerite Buffard, qui finit par réussir à être prof de philo, mais qui est révoquée, pourquoi ? Parce qu'elle était communiste. Donc on est vraiment dans le hors-champ, enfin un peu hors-champ philosophique. C'est un champ, encore une fois, politique, mais aussi social, culturel.
Bien sûr, bien sûr. Et ça se manifeste tout particulièrement, en tout cas dans cet ouvrage, sous la période de Vichy, à laquelle je consacre, moi, un chapitre, justement pour cette raison, pour montrer que les femmes philosophes qui avaient des positionnements politiques contraires au régime de Vichy, hein, et évidemment, ont énormément souffert de cette répression. Donc vous en avez cité une. On pourrait citer aussi Yvonne Picard, qui elle est morte à 22 ans, hein, assassinée, et qui en plus à l'époque avait été dénoncée par son propre père, qui jugeait qu'elle accumulait beaucoup de défauts puisqu'elle venait d'un milieu socialement très privilégié. Elle avait rompu avec ce milieu pour aller étudier la philosophie et le marxisme principalement à cette époque, la philosophie allemande qu'elle aimait beaucoup et qui avait intégré les jeunesses communistes. Donc elle avait, son père considérait qu'elle avait tous les défauts possibles, hein, on peut le dire comme ça, et il l'a dénoncé puisqu'elle était, elle avait des activités de résistante, et il l'a dénoncé à la police. Et lui, en croyant, il pensait pas qu'elle irait dans un camp de concentration, mais il pensait lui donner une bonne leçon.
Voilà.
Puis le résultat de cette leçon, ça a été qu'elle n'est jamais revenue. Voilà. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, donc il y a Marguerite Buffard aussi, on pourrait citer Simone Veil, qui est plus connue aujourd'hui, mais qui elle aussi subit beaucoup de répression, y compris des 38-39, parce que elle, alors on lui reproche, elle est très proche des mouvements syndicaux, de la CGT et du monde ouvrier, alors on lui reproche beaucoup ça, et puis on l'attaque aussi, il y a le lycée dans lequel elle est en poste à cette période, l'attaque en disant mais en fait elle va au travail et elle ne s'habille pas comme une femme. Donc voilà, tout est vraiment mélangé, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ont des profils atypiques et qui en plus se mêlent de politique et qui en plus ne correspondent pas à un standard féminin, voilà ce qui est attendu. Donc on considère qu'elles ont vraiment tous les défauts.
Comment est-ce que vous avez travaillé ? Parce que ça n'a pas dû être simple, j'imagine, quant aux recherches. Il y a très peu d'ouvrages écrits par des femmes, parce que c'est des ouvrages qui ont été perdus ou alors qui sont inaboutis. À titre d'exemple, je voudrais prendre les œuvres de Clémence Royer, qui ont été, là aussi, dont vous parlez. Elles ont été dispersées et donc parties en fumée.
Oui, alors c'est vrai que s'il y a une... on a la chance, enfin ma génération en tout cas a la chance de ne pas partir de rien exactement. Mmh. Ce qu'il s'agit des méthodes, de comment faire pour parler de groupes sociaux qui ont été exclus en fait, qui sont devenus invisibles de nos grandes narrations dans le domaine de la culture, dans le domaine de la philosophie, des arts, etc. Et c'est un héritage qu'on reçoit de l'histoire des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire des femmes, qui nous enseigne qu'il faut évidemment faire procéder à une méthode et à un regard, avoir un regard, porter un regard sur les sources qui est vraiment différent, puisque pour un travail comme celui-là, si je m'étais contentée d'aller sur les rayons des bibliothèques de philosophie, ben évidemment, j'aurais rien trouvé, c'est ce qui s'est passé. Donc on apprend à regarder par les marges que j'appelle le hors-champ dans cet ouvrage, c'est-à-dire les marges, voir des petits indices, des noms comme ça qui sont cités, mais qui sont pas pris au sérieux. On va aussi regarder dans des autres types de sources, alors par exemple les magazines féminins, la presse féministe, et puis on va travailler aussi différemment la question, c'est-à-dire par exemple pour Clémence Royer, oui, que vous citiez, on a aujourd'hui, elle considérait qu'elle avait 20 volumes de travail, enfin de travaux, ouais. mais un grand travail qui pourrait être réuni dans 20 volumes, elle cite ces 20 volumes dans son testament, elle fait tout un projet pour organiser son savoir, pour organiser voilà, ses publications.
Déchirant.
Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera voilà. Jamais. Mais alors,
tout
comment
sera démantelé.
Voilà. Alors, une manière pour nous d'avoir accès à ça aujourd'hui, ben, alors, il y a quelques travaux d'elle qui ont été publiés, qui, en partie, ont été retrouvés par Geneviève Fraisse, qui, là aussi, a eu un rôle important dans la reconnaissance de Clémence Royer. Alors on va travailler en montrant justement qu'elle avait cette volonté en allant voir voilà ce type d'archives, mmh. Voir elle voulait confier ça à son fils. On va travailler comme ça en montrant qu'il y avait oui quelque chose, mais que ça n'a pas pu aboutir, que ça a été avorté en quelque sorte.
C'est elle dont on a autopsié le cerveau ?
Oui. Oui, tout
c'est
à fait.
C'est-à-dire, c'est la Société d'anthropologie de Paris qui l'a demandé pour voir si elle n'était pas bizarre à ce point d'avoir pu faire de la philo.
Exactement, surtout que Clémence Royer tenait beaucoup parce qu'elle avait un savoir extrêmement varié, un savoir multiple. Elle était à la fois une femme de science, une philosophe.
Elle a traduit Darwin.
Elle a eu un rôle très important dans la traduction de Darwin en France.
Mais on lui avait interdit de faire cours à la Sorbonne.
On lui avait interdit de faire cours à la Sorbonne. Elle l'avait demandé, ça c'était au début des années 1880, puisqu'elle avait déjà plusieurs décennies de recherche quand même et elle participait à de nombreux concours et elle considérait qu'elle était légitime pour y aller et on lui a refusé bien sûr et on lui a refusé cette entrée et là on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée que elle avait pas de titre donc est-ce qu'elle était philosophe voilà et donc on lui a refusé cette entrée qu'on lui a on lui a concédé bon c'était post-mortem dans les années 30 il y a eu un petit retour voilà une petite reconnaissance à la Sorbonne. Il y a une salle qui porte son nom aujourd'hui, qui a une manière de se racheter. Mais en tout cas, ces 20 volumes, on ne les a pas et on ne les aura peut-être jamais.
Et Léontine Zanta, quel personnage à la fois complexe et ambigu que cette femme ?
Oui, Léontine Zanta, à laquelle j'ai consacré aussi un ouvrage, justement, parce que, alors là, on est face, je dois dire, pour un chercheur, on est face à un destin qui est décevant jusqu'à un certain point, mais bon, on travaille...
qui est décevant parce qu'elle a pris...
Décevant, voilà, alors oui, qu'on explique. Alors, Léontine Zanta, elle a été la première femme française docteur en philosophie à la Sorbonne. Elle n'a pas été la première docteur, puisque en 1913, il y en avait une avant elle, qui était Alice Terrian, mais qui était roumaine, puis qui avait travaillé sur la philosophie allemande, et donc dans une période extrêmement nationaliste, voilà, à la veille de la Première Guerre mondiale, elle a été totalement invisibilisée. Ensuite, elle est rentrée chez elle. Et donc, Léontine Zanta arrive en 1914. Et surtout, elle a cette caractéristique d'avoir été la première femme philosophe médiatique du XXe siècle en France. Donc, elle a fait la une de tous les journaux. Elle a été la grande inspiration de Simone de Beauvoir, qui à l'époque n'avait pas de modèle. Et donc, elle avait vu une fois passer avait vu son visage dans un magazine et s'était dit, moi aussi, je veux être une femme comme ça, c'est-à-dire une femme qui s'impose sur le plan des idées. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première partie de sa vie de Léontine Zanta, qui connaît cette grande conquête et une conquête qui va servir, donc qui va bénéficier indirectement à d'autres femmes après elle, mais qui après va effectivement.
Ça serait mieux qu'on s'arrête là.
Voilà, qui va avoir un destin, mais bon, un destin aussi lié à ses frustrations du fait qu'elle n'a pas réussi à s'imposer dans le plus durablement dans le champ philosophique. Là, on peut aussi se questionner sur cette dimension. Et en tout cas, voilà, ça a été la première femme philosophe médiatique française du XXe siècle.
Alors, vous disiez, Annabelle Bonnet, qu'elle avait inspiré en quelque sorte Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe est paru en 1949, et c'est en deux tomes. Introduction.
L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif, écrit Michelet. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe, voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc elle l'est, absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre.
Alors, ce qu'on peut dire, si on parle de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, évidemment indissociables, certains ont dit que la philosophe, c'était elle. La même chose pour Dina Dreyfus, qui était la première femme de Claude Lévi-Strauss. Le vrai ethnologue, c'était elle.
Oui, tout à fait. Il y a une similarité dans ces deux propos que j'ai retrouvés, qui met le destin de ces deux femmes philosophes, en quelque sorte, dans une perspective similaire, c'est-à-dire qu'elles étaient, elles ont été les compagnes et présentées comme les compagnes de deux grandes figures intellectuelles du XXe siècle, et elles ont souvent été considérées comme les femmes d'eux, alors que si on regarde dans les archives et dans les entretiens privés, on voit que dans les années 30, 40, on avait plutôt tendance à considérer que c'était elle les têtes pensantes du couple. Mais il y a une inversion qui s'est instaurée et qui dure jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui c'est très difficile. Simone de Beauvoir est encore beaucoup considérée comme femme d'eux, voilà, et ça se voit, il suffit de regarder les difficultés qu'on a eues d'imposer Simone de Beauvoir dans les programmes scolaires de terminale en philosophie. Et puis alors Dina Dreyfus, qui pourtant était une figure dans le monde philosophique en France extrêmement importante, est une figure dont on parle presque plus aujourd'hui. Mmh. Alors là, on est vraiment dans un oubli, alors qu'on se souvient très bien de son premier mari.
Et au sujet de Beauvoir, on peut noter qu'en 1943, elle a été exclue de l'enseignement parce qu'elle avait fait lire La Grosse Vilaine, Proust et Gide à ses élèves. Et les deux étaient condamnés pour leur immoralité.
Oui, c'est ça. Ça a été retrouvé assez récemment. Bon, on savait plus ou moins les raisons, mais il y a une chercheure qui a retrouvé il y a quelques années les vrais justificatifs de son exclusion. Mmh. Et oui, c'était ça. C'était de la transgression. Et puis s'ajoutaient quelques rumeurs sur la manière de vivre de Beauvoir, sur le fait qu'elle n'était pas mariée, etc. Enfin, pour les mœurs de Vichy, c'était complètement inadmissible.
Simone de Beauvoir elle-même, les réactions à la sortie justement du deuxième sexe.
C'est vrai qu'on m'a traité de lesbienne, ce qui d'ailleurs à mes yeux n'est pas une insulte, mais enfin après le deuxième sexe, en effet. Bon, j'ai vu avec étonnement quand même ce que ça m'a révélé. Ça a été l'animosité de certains hommes que je croyais être tout à fait proche de moi, par exemple comme Camus, et qui a été absolument irrité par le livre en disant que j'avais... je m'étais moqué, enfin que j'avais caricaturé le mal français, etc., etc. Il y en a eu d'autres aussi qui ont manifesté une mauvaise humeur extraordinaire. Alors ça m'a beaucoup surprise parce que je croyais que cette espèce d'égalité des hommes et des femmes que j'avais dans mon milieu très très proche, avec Sartre, avec Merleau-Ponty, avec certains autres, je pensais que c'était une chose acquise.
Il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau-frère de Merleau-Ponty, et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais, à cause de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants, parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude.
Gardez vos nerfs, messieurs, c'est pas peine de donner des coups de pied en plus dans les livres de vos concerts. Il y a eu malgré tout, Annabelle Bonnet, des voix de traverse tout de même pour les filles. Alors, vous vous expliquez bien que le fait que la philo ait été considérée comme une discipline scolaire, donc réglementée par le ministère de l'Instruction publique, n'a pas simplifié les choses. Mais tout de même, elles ont pu parfois apprendre la philo par des chemins de traverse.
Oui, tout à fait. C'est ce que je montre dans cet ouvrage et c'était aussi toute la difficulté de reconstituer cette trajectoire puisque c'est une trajectoire qui ne peut pas être classique pour ces femmes. Mais alors oui, on a plusieurs exemples. Il y a plusieurs tentatives, tentatives qui n'aboutissent pas, mais bon, qui existent quand même. On va avoir dès le début du XXe siècle une femme qui s'appelle Camille Boss, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Camille Boss en réalité, mais prend un prénom Camille ou un masculin féminin pour pouvoir traverser plus simplement les questionnements sur son travail qui va soutenir son doctorat, mais elle va aller le soutenir à l'étranger puisqu'ici elle ne va pas y parvenir, mais elle va quand même avoir des publications importantes, notamment dans la sphère de la psychologie sociale de l'époque. On va avoir aussi Jeanne Baudry en 1905 qui va devenir la première agrégée de philosophie, agrégée E.E. Alors il faut se rappeler quand même que l'agrégation de philosophie, elle avait été créée dans les années 1820. Donc, elle arrive seulement après. Mais alors, elle va se débrouiller, en quelque sorte, pour avoir une dérogation. Parce que la loi Camissé, elle dit rien sur l'agrégation de philosophie et les femmes. Il n'y a pas d'interdiction formelle. Donc, elle va se débrouiller pour avoir une dérogation. Et elle va arriver dans les premiers, en plus. Voilà, donc on a plusieurs cas comme ça. Il y a d'autres cas, comme une femme philosophe qui reste un peu une énigme, mais bon, qui mérite d'apparaître, qui s'appelle Mademoiselle Rosenberg.
Elle n'a pas de prénom.
Dont on ne retrouve pas le prénom, exactement. Donc, puis elle aurait été une des premières femmes à avoir effectué son stage d'agrégation. Donc avant de passer son concours, à l'époque, il fallait faire un stage dans un lycée de garçons. Ce qui ne se faisait pas. Les femmes, en général, enseignaient dans des lycées de filles et pas dans des lycées de garçons. Et elle est la première. Donc il y a même... on retrouve des images d'elle, on retrouve des dessins, mais j'ai pas retrouvé en tout cas de photos et ni son prénom. Voilà, ça reste un petit peu comme ça, quelque chose voilà. Et puis on va avoir ensuite, dans les années 1910, toutes les étudiantes qui gravitent autour d'Henri Bergson.
Oui, alors ça, c'est les Bergsonettes, ça, c'est voilà. Mais est-ce qu'il y a eu des tuteurs, est-ce qu'il y a eu un enseignement, j'allais dire parallèle, pas parallèle, mais un enseignement privé où il était plus facile pour les filles d'apprendre la philosophie, d'étudier la philosophie?
Oui, on a quelques cas d'écoles pour jeunes filles qui ont été créées, mises en place, alors avec, je dirais, plus ou moins de succès, mais bon, en général, qui étaient tenues par des femmes qui avaient des positions féministes et qui considéraient que les jeunes filles aussi devaient pouvoir avoir accès au même savoir que les garçons. Et donc, on a effectivement des cas d'écoles privées qui vont essayer de jouer ce rôle.
Chez les religieux, du côté des religieux.
Et on a aussi ça, ce phénomène qui va se produire dans le monde religieux catholique, plus spécifiquement, mais alors là, avec une ambiguïté qui va seulement s'affaisser à partir des années 30, puisque il y a toute une, faut le rappeler, on est dans un contexte de concurrence dans le monde de l'éducation, entre une éducation privée catholique et une éducation républicaine laïque.
C'est pour ça que vous intitulez un de vos chapitres « L'enseignement philosophique pour les filles est-il un héritage catholique ou un projet laïque ?»
Oui, tout à fait, parce qu'il y a une ambiguïté, et puis on voit il y a toute une instrumentalisation de la question de l'enseignement de ces jeunes filles, de la philosophie pour ces jeunes filles, puisque il y a de plus en plus de femmes, de jeunes filles, de jeunes femmes qui veulent accéder au baccalauréat, qui veulent étudier la philosophie, et dans le public elles trouvent pas cette possibilité, donc elles se rabattent sur le privé. Mais alors dans le monde catholique, ce qu'on va retrouver beaucoup dans les programmes, en tout cas d'enseignement de philosophie pour les jeunes filles, sera un enseignement quand même qui tourne beaucoup autour de la famille, là encore, et autour
de la morale.
Et de la morale, voilà. C'est-à-dire, donc on ne va pas non plus avoir un projet d'émancipation, voilà, féminine, un projet de création de libre arbitre pour les jeunes filles. On n'est pas sur ce registre encore dans ces institutions. Donc, mais il va y avoir une certaine porosité malgré tout, qui va faire qu'il y a des femmes qui vont quand même obtenir ces diplômes. Et puis, bon, la situation évolue au fil des décennies aussi, et avec les deux guerres mondiales.
Annabelle Bonnet, vous êtes ce soir donc notre invitée pour votre livre intitulé « La barbe ne fait pas le philosophe ».
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
poussée sonne un peu de travers. On dirait tu n'as pas l'air en forme. En forme de ce qu'il faudrait. My girl, maintenant je te vois. J'imagine un tuteur à tort. Si le vent veut te transformer en fleur. My girl, maintenant je te vois. My girl, je te connais déjà.
C'était Laura Cahen sur France Inter. Elle est philologue, philosophe et académicienne. C'est Barbara Cassin.
Déjà, on part avec un handicap terrible, puisque pendant des siècles, elles n'ont pas fait de philosophie. Elles sont des exceptions rarissimes. Elles avaient quand même le droit d'être poètes ou de... Sappho est un grand exemple. Ou bien d'écrire des romans, ou des nouvelles. Ça va encore. C'est un truc qui ressemble un peu à de la tapisserie, donc ça va. Disons que les choses ont évidemment changé. Moi, je ne crois pas à la philosophie tout court, c'est ce que j'arrête pas de dire. Je crois à la philosophie et je crois à la porosité des genres. Je pense que en tant que est un bon terme. Je philosophe en tant que femme. Et puis quand on me dit « Ah, tu dis ça parce que t'es une femme », je me rebelle et je dis pas du tout, je dis ça en tant que philosophe. Donc j'ai une identité stratégique. Je pense que ça, c'est assez ce qui nous convient maintenant. Je ne dis pas qu'il va falloir que l'identité des femmes soit toujours stratégique. Je dis que maintenant, c'est pas mal.
Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'aucun homme n'a une identité stratégique, Annabelle Bonnet. Non, mais c'est très fort ce qu'elle dit, Barbara Cassin.
Bien sûr, et d'autant plus que c'est très récent. Donc, on voit que la situation a évolué, mais n'a pas encore évolué. Et ça me, c'est ce qu'elle dit en plus. Je pense qu'on peut faire une liaison avec la période sur laquelle moi je me suis concentrée, où d'une certaine façon, on retrouve ça chez ces femmes, des stratégies, des profils aussi, des profils philosophiques qui sont. Je dirais pas qu'ils sont nécessairement stratégiques, mais on peut dire qu'ils sont plus hétéroclites que chez les hommes, qu'ils ont, elles sont une fluidité, je dirais, dans leurs travaux, dans leurs interventions, qu'on ne retrouve pas chez les hommes, chez qui c'est plus carré, voilà, ils font faire de la philosophie ou des sciences, ou de la philosophie politique, ou de la philosophie des religions, et chez les femmes, on va retrouver quand même une, à la fois, ce qui est dû à leur situation et à une discrimination, on va pas les voir dans des champs spécifiques exactement, on va les voir transiter, mais ce qui devient aussi une forme de qualité.
C'est-à-dire oui, ça devient leur force.
Exactement.
C'est ce que disait aussi Geneviève Fraisse tout à l'heure. Est-ce qu'elle, c'est pas aussi une marque d'un certain anticonformisme, au fond, auquel elles ont été obligées, auquel elles sont obligées?
Oui, je pense que ça, en tout cas, conditionne une vision du monde, une vision du savoir. Puisqu'elles n'entrent pas par la même porte que les hommes, elles n'ont pas accès au même savoir. Et puis quand elles y ont accès, elles ne sont pas traitées pareil. Donc je pense que ça conditionne effectivement une manière de regarder, une manière de réfléchir, sans qu'elle ait de relation avec une quelconque nature, une quelconque biologie qui serait intrinsèque aux femmes, mais plutôt liée à une manière voilà dont elles reçoivent, dont elles sont jugées, qui va conditionner voilà une manière de réagir aussi et une manière d'agir.
Petite lueur tout de même, il y a eu des hommes pour soutenir les femmes, la cause des femmes.
Oui, il y en a eu. Oui.
Il faut que vous réfléchissiez un petit peu ou vous pouvez tout de suite nous dire. Non,
sur la période de la Troisième République, il y en a eu.
Trouvez des noms.
Et alors, le nom que moi j'aime citer parce que, enfin, en priorité parce que pour moi c'est un nom, il a un positionnement qui n'a pas d'ambiguïté. Et je pense que c'est un des seuls durant cette période. C'est Léon Braunschweig, et donc qui était à l'époque de la Troisième République considéré comme un grand philosophe républicain qui incarnait l'institution philosophique, qui était présent dans beaucoup de jurés, dans le jury d'agrégation aussi. Enfin, qui était une figure marquante. Et lui, c'était un républicain, et il était républicain jusqu'au bout. Et il a été aussi l'époux de Cécile Braunschweig, qui a été une féministe républicaine très importante de la période. Et lui, il est intransigeant, c'est-à-dire qu'il pense que s'il y a égalité, il y a égalité partout. Sinon, il n'y a pas d'égalité. Et là, lui, c'est le seul, et c'est une figure qui est encore, enfin, qui aujourd'hui est assez oubliée en plus dans le champ philosophique, et qui pourtant a cette intransigeance. Et après, on va retrouver d'autres philosophes, notamment Henri Bergson.
Alors justement, parce que tout à l'heure, on disait un petit mot des Bergson. Disons que Bergson, ça a été le premier philosophe médiatique,
oui, hein,
du XXe siècle. Il donnait des cours au Collège de France. Il y avait un monde fou qui venait l'écouter, des hommes et des femmes. Mais à un moment donné, il y a des femmes qui étaient très nombreuses et qui ont réclamé tout simplement des chaises pour pouvoir s'asseoir,
exactement,
pour pouvoir l'écouter mieux. Et c'est ce qu'on a appelé les bergsonettes, mais qu'on a appelé de tous les noms d'oiseaux.
Oui, oui, et bergsonette n'était pas d'ailleurs une qualification positive. Alors oui, cette
situation... On les appelait les snobinettes, les caillettes, enfin il y a eu tout.
Voilà, les bergsonettes, les bergsoniennes. En tout cas, ce qu'on voit à travers l'utilisation de ces termes, c'est qu'on ne pouvait pas penser que des femmes pouvaient assister à des cours de philosophie pour la philosophie et pour penser par elles-mêmes. Donc il fallait toujours les associer à des hommes, à des grands penseurs. Et puis on leur mettait ce petit diminutif à la fin comme Bergson, Bergsonette ou Bergsonienne aussi. C'est une variante qu'on retrouve. Et c'est cette idée en fait de diminuer en quelque sorte leur position et puis d'en rire surtout. Et alors oui, Henri Bergson a été le premier grand philosophe médiatique français. Après, bon, il viendra Sartre. Mais il a été un philosophe qui à l'époque jusqu'à un certain point, malgré lui, ouvert la philosophie qui s'était réduite vraiment à la sphère universitaire. Et lui, il va donner des cours au Collège de France qui vont intéresser vraiment des personnes qui ne sont pas du tout professionnalisées, y compris des femmes. Et des femmes dont on a dit pendant longtemps qu'elles allaient assister à ces cours de Bergson, elles allaient massivement. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle, pour moi, le premier grand public féminin philosophique du XXe siècle. en France, mais on disait que c'était voilà des mondaines, que c'était, alors il y en avait puisque Bergson il fréquentait aussi des milieux voilà encore qui fonctionnaient encore avec cette idée qu'il fallait aller dans des salons, voilà la mondanité parisienne, mais il y a eu aussi beaucoup d'étudiantes qui allaient à ses cours et il a eu beaucoup d'échanges avec avec des femmes, et Léontine Zanta d'ailleurs a été une de ses élèves et s'est beaucoup inspirée de lui pour son travail. Il l'a encouragée à poursuivre ses études de doctorat, mais alors lui toujours avec une ambiguïté, Bergson, ça a été un grand, il a joué un grand rôle dans l'ouverture de l'espace philosophique pour les femmes, mais pas toujours, ça c'était pas toujours dû à ses positions. Et alors par rapport à Léontine Zanta par exemple, on sait qu'il l'a encouragée à passer, à soutenir son doctorat. Alors elle avait déjà plus de 40 ans, hein, faut le rappeler. Et mais en revanche, il lui a dit que elle ne posséderait pas le génie créateur puisqu'elle était une femme. Donc il fallait quand même qu'elle se contente, bon, d'une position un petit peu. Donc voilà, on retrouve chez Bergson une ambiguïté vis-à-vis de cette question. Et c'est en revanche quelque chose qui évolue chez lui, puisqu'après la Première Guerre mondiale, en revanche, il prend position. Et là, il prend position en 1920-1921 en disant oui, il faut que les femmes puissent étudier la philosophie comme les hommes, ça tient plus, quoi. Mais il a été ambigu par rapport à ça pendant très longtemps. Mais malgré lui, il a été voilà, une porte ouverte pour les femmes. Voilà, il faisait un type de philosophie qui était différent. Il cassait en quelque sorte les codes universitaires, et donc il y a un certain nombre de femmes qui ont vu une opportunité, voilà, de pouvoir assister, et même comme ça, comme vous le disiez, une opportunité qui a créé beaucoup de problèmes. Donc je reviens sur cette anecdote qui pour nous, voilà, ça nous fait sourire, mais à l'époque a été un vrai scandale. C'est qu'il y a un public massif de femmes au Collège de France qui est arrivé, elles n'avaient pas de chaise pour s'asseoir, et alors elles sont allées demander des chaises. Et puis les étudiants de philosophie, donc hommes qui étaient présents dans la salle, ont protesté en disant qu'en fait ce qu'elles voulaient, c'était faire du brouhaha, enfin bon, venir assister, voilà, en fait aller au cinéma en quelque sorte, c'était un peu ça, et puis qu'elles venaient pas pour faire de la philosophie et qu'ils comprenaient pas pourquoi elles étaient présentes. Donc il y a eu vraiment un conflit par rapport à ça, mais elles ont eu des chaises. C'est important, bravo, de le dire.
Qu'est-ce que vous pensez d'Alain en la matière, du philosophe Alain?
Alors le philosophe Alain, il est aussi très ambigu par rapport à la question de l'émancipation des femmes, par rapport à la question aussi du droit de vote des femmes. Et alors il a souvent été vu pour son côté plus anti-féministe que féministe, qui est juste. Il était très rude, mais en même temps dans la pratique, quand on regarde de plus près, par exemple, il a beaucoup encouragé Simone Veil à se diriger vers la philosophie. Il a aussi enseigné dans des un public féminin, il ne récusait pas, voilà, le fait d'aller dans des lycées, de collèges, enseigner la philosophie à un public féminin. Mais bon, quand même, il rappelait que, il en riait quand même un petit peu. Donc il y a une ambiguïté. Et sur ça, j'en profite pour dire par rapport à ce cas, à ces cas d'hommes et à cette ambiguïté, c'est que moi, j'ai mis en avant leur ambiguïté parce que je pense que c'est important de montrer que ces hommes, ils étaient en fait pris dans leur époque, mais c'est-à-dire qu'ils voyaient bien que ça changeait. Donc ils essayaient de s'adapter aussi, et même malgré leurs idées, malgré leur position souvent à la base conservatrice, ben ils avaient pas le choix en quelque sorte. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant d'étudier, c'est qu'on est quand même dans une période très très dynamique où c'est pas seulement les mouvements féministes qui sont dynamiques, c'est aussi une conscience, une mentalité, voilà, une évolution des mœurs qui se produit. Et donc on voit ces hommes obligés en tout cas d'avoir une position vis-à-vis de ce public féminin, de ces femmes, voilà, qui se considèrent comme des intellectuels.
Dina Dreyfus et Simone de Beauvoir portent un nouvel horizon pour les femmes comme pour la philosophie, c'est ce que vous écrivez au terme de votre livre, Annabelle Le Bonnet. Il n'empêche, malgré le long chemin parcouru, donc on s'est bien rendu compte à travers les témoignages de ces philosophes actuels qu'on a entendu qu'il y a des freins qui subsistent encore et que le combat n'est pas fini. À la question « Est-ce qu'on accepte les femmes philosophes ?» donc aujourd'hui même, eh bien voici ce que répond la philosophe et féministe Michèle Ledeuf.
En principe, il n'y a aucun problème. C'est la banalité même. Il y a des femmes dans tous les corps de métier, y compris en philosophie. Et cependant, de ci, de là, une fois par semaine, de temps à autre, quand il y a un conflit, quand quelque chose ne va pas, l'agression verbale est très violente. C'est-à-dire que le milieu intellectuel est très dur à l'égard des femmes intellectuelles, nous reprochant à la fois de ne pas être tout à fait femmes et de ne pas être des intellectuels de premier plan. Si vous êtes femme et philosophe et que vous n'êtes pas féministe, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Puisque la vérité officielle affirme que tout est réglé dans la situation des femmes, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a des agressions aussi vives que celles qui avaient lieu il y a 24 siècles.
C'était donc Michel Le Duff. Il va falloir, Annabelle Bonnet, faire la deuxième partie du livre, l'écrire, y penser. J'espère que vous y êtes déjà mise, parce que là, c'est les femmes et la philosophie en France de 1880 à 1949. Il faut faire de 1949 à, je ne sais pas, peut-être 2010, 2020, je ne sais. Vous allez le faire ?
Oui, je vais le faire.
On sait bien, alors on est très contents. Bravo, vous reviendrez nous en parler. Annabelle Bonnet, merci. La barbe ne fait pas le philosophe. C'est publié donc au CNRS Éditions. Merci à vous.
Merci.